Je vais donc raconter la vie de Ludovic de Bess, qui est donc fondateur d'œuvres sociales, en particulier de banques, mais pas seulement, et qui non seulement a une activité de fondateur, de créateur de banques populaires, mais qui a été aussi qui a défendu ses idées sociales. C'était c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, qui a fréquenté des dizaines de congrès. À l'époque, il y avait beaucoup de congrès chez les catholiques en France, mais pas seulement en France, en Europe. Donc, c'est un homme qui a dû circuler beaucoup en train. Heureusement qu'il y avait le train à la fin du 19e siècle, ça a beaucoup aidé les catholiques qui se réunissaient tous les ans dans de multiples congrès pour élaborer cette pensée sociale. Alors, mes sources, c'est d'abord 2 mètres d'archives dans les archives ici au-dessus, ses carnets. Alors c'est un homme qui collectionnait beaucoup de choses. Il a une sorte de pressbook en 2 volumes où il a recueilli tous les articles où on parlait de lui et qu'il avait composé. C'est comme ça. Et puis, une correspondance très importante. Il notait toute sa correspondance. Et il y a des années où ça dépassait 1000 lettres. Pendant ce temps-là, si on regarde les comptes rendus de visite canonique des provinciaux, il n'arrête pas de dire « il faut que les frères écrivent moins et reçoivent moins au parloir ». Et lui recevait et rencontrait beaucoup, beaucoup de gens. Bon, il a toujours eu un statut un peu délicat dans la province ici, de la province de Paris, la nouvelle province de Paris. Mais il a été accepté et accueilli jusqu'à la fin et encouragé souvent. Alors ensuite, les sources, c'est Hilaire de Barenton. C'est un capucin 1864-1946. Qui a fait une énorme biographie en 2 volumes, avec un 3e qui n'a pas été publié. Alors, ce n'est pas un homme qui avait tellement le sens de la synthèse, mais plutôt de l'analyse. Et il a fait une biographie qui est plutôt thématique que chronologique. C'est un peu difficile pour s'y retrouver dedans. Le 3e tome n'a pas été publié. Émile Poulain, vous savez, le sociologue catholique, un grand monsieur, est venu ici travailler dans les archives pour son livre sur les prêtres ouvriers, la naissance des prêtres ouvriers. Émile Poulain dit que, je ne sais plus où, Ludovic de Bess était un homme hors du commun, aux frontières incertaines du génie. Eh bien, ça va aussi pour, il dit, et Hilaire de Barenton aussi. Alors c'était plus incertain les frontières. Il avait déposé un brevet il avait inventé un nouveau modèle de lampe à acétylène. Puis alors il a été un acteur remarquable, gardien d'une communauté qui était dispersée après 1903 ici à Paris. Il a eu une activité de publiciste. Il a combattu par la plume la République avec beaucoup d'intelligence. Puis après il s'est perdu dans les questions du concordisme et le clou de sa carrière, c'est il va serrer la main à Kemal Atatürk en complet veston. Il va saluer la main à Kemal Atatürk parce qu'il avait découvert une théorie sur les langues, et la langue turque était à l'origine de beaucoup d'autres langues. Et donc ça a intéressé évidemment le nationaliste Kemal Atatürk. Tout ceci a été relu par quelques historiens du catholicisme social, mais aussi par un professeur d'économie, d'histoire sociale, André Guélin, et on trouve aussi des traces, on parle de Ludovic de Bess sur les sites des banques populaires, on voit sa photo, et d'autres sites qui s'intéressent à l'histoire de l'économie sociale. Ludovic de Bess, il s'appelait Alphonse Élisée Chex. D'ailleurs, il a un petit neveu qui est franciscain, qui est à Athis-Mons en ce moment. Il est né à Bess-sur-Issole, c'est près de Brignoles. Brignoles, c'est le pays de Saint-Louis d'Anjou, c'est pour ça que quand il deviendra capucin, il s'appellera Ludovic. Son père était descendu des montagnes, il avait épousé une femme du pays, une jeune veuve, et il était tisserand, c'est-à-dire un homme de métier. Au recensement de 1851, ses parents, ont amélioré leur situation et ils sont commerçants. Et ils vont aller s'installer à Marseille, où le fils chéri, Élisée, Alphonse Élisée, va commencer le noviciat. Leurs affaires vont très bien. Mais donc, il est issu d'un monde d'artisans, de commerçants, et c'est à ce monde-là qu'il va s'intéresser toute sa vie. Ce monde qui avait été très bousculé par la Révolution et par les nouvelles conditions socio-économiques. Il y a un autre capucin, Joseph de Ranzan, qui était de la province de Toulouse, du sud-ouest. C'est un frère un tout petit peu plus jeune, il y a 10 ans de moins que Ludovic de Besse, qui s'est intéressé, au crédit rural. Et il avait des relations pour cela avec Ludovic de Besse. Et lui, il disait, moi je suis fils de paysan, je m'intéresse aux paysans. Le jeune Élisée voit donc vit dans le Var jusqu'à ses 20 ans à Besse, et ensuite il va au petit séminaire à Brignoles, ensuite à Fréjus au grand séminaire, et c'est là qu'il, au cours de ses études, qu'il décide d'entrer au noviciat des Capucins à Marseille, qui venait d'arriver. Les Capucins à Marseille, c'était le noviciat était nouvellement installé. Parce qu'en 48, il était à Lyon, mais il y avait eu la révolution était plutôt anticléricale dès le départ à Lyon, et donc les Capucins étaient partis à Marseille, un peu inquiets. Et donc, il prend le nom de Ludovic, un noviciat très austère chez les Capucins à Marseille. Il y a eu un mort cette année-là, d'ailleurs. Ben, il ne prenait pas de petit déjeuner, il n'y avait pas de chauffage, c'était rude. On peut penser que ces origines, aussi dans le Midi, ont nourri l'imaginaire de ce militant qu'était Ludovic. Il était, en plus, parce qu'il y avait une intense vie sociale, vie politique dans le Var à ce moment-là. Et en plus, il était jeune homme en 48. Et alors en 48, Besse, son village, Besse-sur-Issole, devient un village rouge. Les républicains s'agitent, il y a beaucoup de clubs, etc. On discute beaucoup. Et quand le président fait le coup d'État, Napoléon III, donc, après le coup d'État de décembre 1851, il y a une insurrection dans le Var. Et le frère, le demi-frère de Ludovic de Besse va participer à ces émeutes. Il va être condamné à 3 ans d'éloignement, qui seront réduits par la suite. Ce qui veut dire que c'était il était passé du côté des rouges, des républicains, tandis que son frère, qui était au petit séminaire à Brignoles, etc., dans les milieux très blancs, n'est-ce pas ? Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que avant d'entrer au noviciat à Marseille, Ludovic écrit à son demi-frère, qui est aussi son parrain, qui a 13 ans de plus que lui, et il écrit à vous qui avez perdu la foi. Alors cette lettre, c'est la lettre d'un jeune homme, elle est un peu naïve, mais elle exprime bien l'esprit de l'époque. Vous m'avez parlé souvent du malheur de notre siècle, plus funeste peut-être que l'on ait jamais vu à cause de sa fécondité prodigieuse en souffrance de toutes espèces. Eh bien, dites-moi, quel remède apporterons-nous à ce mal ? Il y en a deux. Le premier, c'est le vôtre, ce sont les révolutions. Mais permettez-moi de le croire inefficace. Voilà, c'est bien posé, ça c'est tout le 19e siècle. Pour moi, je crois connaître un remède plus efficace aux maux de notre époque. Il faut prouver aux âmes voluptueuses du jour que la privation et la souffrance ne sont pas un mal. Il faut réhabiliter la pauvreté aux yeux des hommes épris de l'amour des richesses. Et alors, il faut se couvrir d'un froc misérable et aller les pieds nus, les reins ceints d'une corde, mais le contentement dans le cœur et une douce joie sur le visage. Aller, dis-je, dans les villes et les campagnes, porter une parole d'espérance et de salut à l'humanité souffrante. En deux mots, les Capucins sauveront la France ou elle périra dans les révolutions. Bon, on trouve cette idée qui est partout à l'époque. Les gens ne pensent plus qu'à s'enrichir. Deuxièmement, un argument en arrière-fond, la religion est socialement utile. Il faut dire que le XIXe siècle connaît tous les soubresauts suite à la Grande Révolution jusqu'à la Commune de 1871. Après 48, après la Révolution de la Fraternité, il y a eu des journées sanglantes au mois de juin, des émeutes de la faim. Et à ce moment-là, c'est la panique générale parce qu'on ne sait pas comment résoudre cette question sociale. La République ne sait pas comment la résoudre. Donc cette lettre dit bien cette inquiétude des Français au XIXe siècle et en particulier des catholiques. C'est cette crainte de la Révolution qui va faire... Qui va provoquer une alliance que Proudhon, l'anarchiste, appelait l'alliance entre le coffre-fort et le goupillon. C'est pas du tout la position de Ludovic de Besse, qui tout le temps regrettera que les bourgeois catholiques ne s'engagent pas plus pour la justice. Mais alors donc toute sa vie, je pense que Ludovic de Besse, on va voir ça, est allé à la recherche de son frère, de son demi-frère. C'est-à-dire, lui, ce qui l'intéresse, c'est faire des œuvres où les gens honnêtes pourront être présents, dans lesquels ils pourront être présents. Il s'intéresse pas seulement aux catholiques, mais aux gens honnêtes, à ceux qui sont éloignés de l'Église, qui ne pratiquent plus, etc., etc. Ça va être même parfois une obsession chez lui, c'est d'aller rencontrer ce monde et faire des œuvres avec eux avec une intention d'évangélisation, de prosélytisme, comme on dit à l'époque. Ensuite, comment se prépare-t-il ? Donc les Capucins viennent de se rétablir dans le sud-est. Après avoir effectué son noviciat, Ludovic de Besse entreprend des études. Alors tout le monde dit que c'était de très fortes études, très bonnes études, mais il faut voir que chez les Capucins à cette époque, il y avait, déjà dans l'église, il n'y avait pas de grands moyens pour étudier, et chez les Capucins ils étaient en train de se rétablir, ça bougeait tout le temps, on ne mangeait pas au petit déjeuner, etc., etc. Les professeurs étaient parfois brillants, des gens cultivés, mais pas forcément des très bons professeurs. Mais lui, par contre, était très, très, très doué. C'est un homme très doué. Donc je pense plutôt qu'il ait une formation médiocre, avec les moyens du bord. Donc après, il fait une année d'éloquence à Lyon, et il arrive en 1858 à Paris. Les Capucins, donc, comme Pierre l'a dit, étaient arrivés 6 ans auparavant, difficilement. Il était prévu qu'ils aillent faire les prières pour les morts au cimetière Montparnasse. C'était le premier contrat qu'ils devaient avoir dans le diocèse de Paris. Mais le clergé s'est opposé à ça, le provincial n'était pas trop d'accord. Finalement, ça ne s'est pas fait. Donc ils sont installés d'abord du côté de là où il y a Notre-Dame-des-Champs. Et puis en 58, ils étaient déjà rue Saint-Jacques, un endroit qui n'existe plus parce que on a percé le boulevard Arago, cet endroit-là. Donc il arrive là et il va prendre part à une communauté qui a une activité très très intense. Les frères sont demandés de partout pour prêcher. Ils ont beaucoup d'activités, y compris dans la chapelle. Dans une ville qui est en pleine croissance démographique à ce moment-là et complètement bouleversée, où il y a une réelle misère. Napoléon III fait percer des grands boulevards pour moderniser l'ensemble de la capitale, donc il y a des gens qui perdent leur logement. Et donc les Capucins eux-mêmes, ils vont être expropriés et ils vont partir rue de la Santé, tout près du boulevard de Port-Royal. La vie de l'Église aussi à Paris change profondément. Aller à Paris pour un prêtre à l'époque, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, c'est ce qu'il faut réussir. Et on a beaucoup de mal après, même pour avoir un poste qui est considéré pas très intéressant. Tout le monde veut aller à Paris. Et après, les évêques se peinent, ils ne peuvent pas récupérer leur prêtre, parce qu'ils restent à Paris. On est très bien à Paris. C'est un lieu très, très, de très dynamique. Les paroisses sont réorganisées, des églises sont construites. Et puis, les religieux et les religieuses arrivent depuis déjà 10 ou 20 ans. Le clergé est régulier vers 1860, c'est aussi nombreux que les clergés diocésains. Alors ça va commencer à faire des problèmes. Il y a concurrence, les prêtres se plaignent, donc l'évêque commence à surveiller ça de très près, à faire des ennuis, et surtout qu'un ordre comme les Capucins ou les Jésuites dépendent de Rome, hein, donc toujours des difficultés. Et puis, à partir de 1860 aussi, la politique italienne de l'empereur, de l'Empire, fait que les relations se dégradent entre les catholiques et l'empereur. Mais alors, il y a un rapport général du préfet de police sur les congrégations religieuses en 61 qui dit à propos des Capucins ceci. Dévoués au pape, ça c'est sûr. Ils sont fort peu attachés à l'empereur, dont ils désapprouvent la politique. En contact avec les classes ouvrières, ils ont sur eux une certaine influence qu'ils exercent au profit de l'Église. Il termine en disant « Ils sont pour la démocratie pacifique ». Ça vous situe un peu le milieu où vit Ludovic de Besse. Alors donc lui, il assure des prédications dans les paroisses, il voyage en province, il est au service de communautés religieuses, féminines, et puis il y a la chapelle, etc. etc. Les Capucins sont en contact avec les élites sociales du temps. Il se trouve qu'en 1860, M. Desgenettes, le curé de Notre-Dame des Victoires, vous savez, c'est un curé qui avait une idée qui avait très très bien marché. Il y avait beaucoup de monde dans son église, alors que quand il était arrivé, il n'y avait personne. Donc un changement dans la dévotion, dans les pratiques, des pratiques beaucoup plus proche des besoins des gens, plus affectives, ça commence avec le romantisme bientôt, et bien alors là, il y a eu beaucoup de monde dans son église, à Notre-Dame-des-Victoires, et donc avant de mourir, il conseille à une de ses dames dirigées d'aller chez les Capucins. Il s'agit de Hortense Thayer, qui était née en 1810, et elle va donc chez les Capucins et elle va entraîner avec elle, après elle, d'autres dames de la cour de l'empereur, de la cour impériale. Et c'est Ludovic de Besse qui devient le directeur de conscience. Alors donc, Madame Thayer, qui fréquente la cour impériale, qui est une femme, donc c'est la fille du général Bertrand, c'est-à-dire de l'aide-de-camp de Napoléon. Elle est très bien donc avec les milieux napoléoniens de l'Empire, mais elle est aussi profondément catholique et elle va servir de lien entre les catholiques et l'Empire. Elle va servir de. Elle a un salon tout près du salon de Madame Swetchin et elle va aussi et elle reçoit beaucoup. Son mari, c'est un ami du Napoléon et Louis Napoléon et il lui avait donné un coup de main au moment du coup d'État. Il est devenu sénateur, etc., etc. Et trésorier du comité pour la défense de la liberté religieuse. Il rencontre beaucoup, beaucoup de monde. Ce sont des militants catholiques, des artisans du renouveau de l'Église. Et ça va être comme des nouveaux parents pour Ludovic de Besse, parce qu'ils ont 20 ans de plus que lui, ils ont perdu leurs 3 enfants. Ils vont devenir vraiment Madame Thayer, qui va vivre plus longtemps que Monsieur Thayer, d'ailleurs, ils vont devenir les bienfaiteurs du couvent, au couvent en bois du vin de Châteauroux, parce qu'ils ont un château à Châteauroux. Et puis, surtout, Madame Thayer offre le reliquaire du manteau de Saint François. Ça se passe pas très bien d'ailleurs, mais bon, après la commune. Voilà, ce sont des gens qui ont. Ludovic de Besse vont ouvrir son monde. Je pense qu'il va avoir de ce fait-là beaucoup de relations dans les milieux du Second Empire qu'il va garder plus tard et qui vont lui servir dans ses affaires. Les Capucins traversent les épreuves de la guerre de 70, puis celle de la commune. Vous savez, la commune, ça a été terrible, hein, à Paris. Ludovic est présent à peu près tout le temps. Mais on lui reproche de ne pas être au couvent. Il était tout seul resté, mais on dit qu'il était chez Madame Thayer. Monsieur et Madame Thayer, à l'époque. Non, Madame Thayer. Il y a beaucoup d'histoires à ce moment-là. En 1873, on l'envoie à Angers, parce que la nouvelle province était née juste avant. Les nouvelles provinces avaient été faites juste en 70. Et après, il y a la guerre, il y a la commune. c'était une histoire, des histoires très très difficiles. Le provincial est complètement dépassé. Il y a un problème avec le manteau de Saint-François, le reliquaire, qui est trop grand, qu'on a voulu sauver pendant la Commune. Donc on fait un nouveau reliquaire, mais Madame Taillère et le père Ludovic se fâchent, etc. Le provincial voit le diable partout. Catastrophique. Le provincial refuse de se représenter. Il y a un visiteur qui vient de Belgique, nommé par le ministre général. Et donc, en 1873, on met Ludovic de Besse à Angers. Et il ne s'était pas contenté de fréquenter les salons. Il écrit un jour « Moi aussi je suis ouvrier, ouvrier par naissance, ouvrier par le cœur, ouvrier par ma profession de capucin. Le capucin, quand il a fini de prêcher, travaille aux travaux manuels, il est tailleur, jardinier, etc. » Bon. Alors il arrive à Angers. Et là, il y a un grand évêque, Monseigneur Freppel, très conservateur, mais très grand évêque, et qui l'encourage. Et le nouveau provincial aussi est quelqu'un qui encourage les frères à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ça va être le provincial, le père Arsène de Châtel-Montagne, était 9 ans provincial et il a beaucoup, beaucoup aidé la province à grandir, et les frères aussi. Il met... En 1875, Ludovic de Besse commence ses œuvres sociales et il crée d'abord une société protectrice du travail et de la vertu, voyez, qu'il place sous le patronage de Saint-Joseph, bien sûr, pour protéger les jeunes filles obligées de travailler dans les ateliers ou en dehors de la maison maternelle, paternelle, avec des dames patronesses qui cherchent les maisons chrétiennes où elles peuvent être placées et puis qui les visitent régulièrement. Et les dames achètent dans ces maisons chrétiennes. Cette société se développe très vite et ensuite le père Ludovic crée une société de secours mutuel pour les malades et un bureau de placement du personnel. Il commence à faire des listes de magasins, d'ateliers, d'ouvrières participant à l'œuvre. Et puis, il adapte ses œuvres aux hommes, apprentis et ouvriers. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, le catholicisme social, c'est surtout du patronage pour les jeunes. Lui, il vise le travail, les gens dans leur travail. Comment améliorer leurs conditions de travail ? C'était une question qui n'était pas le seul à se poser. Il y avait, c'était aussi la question que se posait l'œuvre des cercles. Albert Demain, René de la Tour du Pin, qui avait repris une œuvre qui se trouvait à côté de Notre-Dame-des-Champs, la belle église, là où, où failli être les capucins, de Maurice Maignan. Et c'était un patronage. Et ils veulent changer, aller aussi vers les questions de travail, aider les gens dans le travail. Mais ça ne marche pas bien quand même. L'objectif de tout le monde, c'est de reconstituer un ordre social chrétien, avec des corporations, etc. Mais ça ne se passe pas très bien. On n'arrive pas à faire ce changement. Alors il faut voir aussi qu'on ne touche que des gens qui étaient des artisans ou des commerçants, pas vraiment la classe ouvrière. Il y a un intégriste qui a écrit, on cite souvent ça, c'est drôle, « Ce n'étaient le plus souvent que des attardés de l'industrie, des cancres de l'usine, braves gens par ailleurs, et d'une piété extérieure suffisante, ou encore des employés des librairies cléricales, des bedeaux en rupture de hallebarde, des sacristains retraités, des concierges de communauté, des garçons de bureau des œuvres. » On ne touchait pas vraiment le... Mais il faut dire moi, quand j'étais jeune, on surévaluait la réalité ouvrière en usine en France au 19e siècle, c'était quand même pas très développé, plus à la fin qu'au début, bien sûr. Ça l'était beaucoup plus en Angleterre, mais pas tellement en France. Donc, Monseigneur Freppel
fonde un cercle catholique d'ouvriers dans son diocèse et il va faire appel à Ludovic de Besse comme aumônier, sans doute pour éviter qu'il y ait deux institutions concurrentes. Mais ça ne marche pas du tout, parce que d'une part, Ludovic de Besse, vous voyez, il faisait des listes de chrétiens, il essayait de rassembler les catholiques, ça provoquait du bruit dans la ville d'Angers. Les anticléricaux se remuaient, comment il fait des bottins, on disait il fait des bottins cléricaux, le père Ludovic, et la bourgeoisie de catholique d'Angers n'aimait pas du tout ce bruit. Préférait le silence à l'agitation. Et puis, l'œuvre des cercles était une œuvre laïque, et le père Ludovic aimait bien collaborer avec les laïcs pourvu que ce soit le chef, lui. Donc ça n'a pas marché longtemps. Les annuaires, il veut faire des annuaires pour que les catholiques fassent travailler les catholiques. Donc il fait ça, et il va diffuser cette idée en France grâce au congrès auquel il va participer partout en France. Et donc aussi les campagnes de presse contre lui vont augmenter. On se déchaîne contre lui, hein. Le principe fondateur de son œuvre, le premier principe, c'est « il n'est pas permis de séparer les intérêts de la morale, les affaires de la religion ». Ça, c'était c'est un leitmotiv chez Ludovic de Besse, ne pas séparer, unir. Et ensuite, puisqu'il dit aussi « puisque l'Église fit sur la terre, la société protectrice du travail chrétien l'a pris d'y poser les pieds et d'y marcher ». Il veut refaire une société dans laquelle l'Église sera comme la clé de voûte. Et donc, ce qu'il fait, ses œuvres, c'est le point de départ. Et il va développer ses œuvres dans cet esprit-là. Un autre principe, c'est l'Église a le droit de se défendre et de défendre les faibles autrement que par des paroles. Ça, c'est lié au syllabus, hein. Le droit d'employer la force. Et il dit que la société de Saint-Joseph, avec ses listes, est une déclaration de guerre à la société moderne, en retirant le travail à ceux qui ne sont pas chrétiens. On comprend que c'est provoqué quelques réticences à Angers, et même dans les congrès catholiques. Ludovic de Besse va jusqu'à dire que l'exclusion, c'est positif, même dans ce qu'elle a de pénible, c'est un acte de charité. Mais il veut reconstruire une société catholique, et de l'autre côté, il y a des gens qui pensent la même chose. Hein, c'est un conflit entre la guerre, entre la religion catholique, entre les catholiques et la société moderne. Et alors, encore un point sur ces œuvres qu'il crée, c'est que la société protectrice du travail et de la vertu qu'il a présentée, on lui demande de la changer en société protectrice du travail chrétien. Ça, c'est un point important pour lui, parce que justement, il ne parle pas de chrétien, parce qu'il veut associer des gens qui ne pratiquent pas, qui n'ont pas de référence chrétienne immédiate, au moins. Et il va dire « bon, on m'oblige à baptiser mon œuvre ». Et toute sa vie, il va le regretter. Il a toujours défendu l'idée selon laquelle l'Église devait être présente à des œuvres qu'il appelle libérales. C'est un libéralisme qui n'est ni politique, ni économique, ni religieux. C'est plutôt des œuvres neutres. Libéral signifie neutre, sans caractère confessionnel. Alors, il fonde un journal aussi, l'Union économique, pour défendre ses projets, ses opinions, ses idées dans le domaine social. Dans notre pensée, toutes les institutions économiques, il écrit dans son journal, dont nous avons pris l'initiative, doivent être essentiellement des instruments de propagande. Et il distingue chez les gens du peuple deux catégories, les impies, qui sont vicieux, haineux, fanatiques, et puis la masse des gens qui ne vont plus à la messe, qui est purement indifférente. Elle garde un fond religieux, cette masse. Cette masse comprend les petits travailleurs qui se laissent absorber par le soin des affaires, par la recherche fiévreuse du pain quotidien. Ce sont des gens qui ont gardé l'amour de la famille. À la même époque, en 1880, il y a un autre capucin qui écrit un livre. Lui, c'est pas quelqu'un de pratique comme Ludovic de Besse. C'est pas un pasteur, c'est un professeur. Et Il s'appelle Ubalde de Chandet. Il est là-bas au fond, dans le, on le voit sur le grand tableau là-bas. Il écrit un livre, c'est La rue de la santé. La France, alors, sur la, le, ça s'appelle Les Trois Frances. Première France, la France satanique ou la révolution. La deuxième, la France chimérique, le libéralisme. C'est-à-dire tous ceux qui acceptent, des, les catholiques, qui acceptent des transactions avec la nouvelle société, hein, qui font des compromis. Et enfin, la France catholique ou la tradition. Voilà le terrain sur lequel, idéologique sur lequel on est. Je pense que Ludovic de Besse est plus pratique. Lui, il voit, il imagine l'ennemi, comme tout le monde, hein, la France issue de la franc-maçonnerie, etc., la révolution. Et puis il y a tout, il y a les braves gens qui sont loin de l'Église, ou plus ou moins loin, et puis il y a les militants comme lui, les catholiques, dans l'Église. Il va se battre, par exemple, contre le chocolat Meunier. Parce que c'est chocolat Meunier, le fondateur des chocolats Meunier est un peu comme Gaudin à Famille Lister, oui. Il a une usine avec des œuvres sociales, des écoles, mais c'est un républicain, quelqu'un qui croit à la science et au progrès. Donc tout ce que rejette Ludovic de Besse. Hein. Et donc, à un congrès catholique, il y a Ludovic de Besse dit mais enfin, quand même, ok par cela. Et il dit, mais les catholiques n'avaient-ils pas coopéré efficacement à cette prospérité? Que de presbytères, que de familles chrétiennes, que de communautés religieuses, que de pensionnats et collèges catholiques dans lesquels on déjeunait chaque matin avec le chocolat Meunier. Et vous? Voilà, donc il dit, les catholiques ont l'obligation de coopérer au bien et pas au mal. Interdiction de coopérer au mal. Alors, ensuite, je vais parler de la fondation des banques. D'abord, en 1878, il développe toujours son œuvre, les apprentis, les ouvriers, etc. Et il va créer une banque après qu'on lui ait transmis un livre qui venait d'Allemagne. En Allemagne, avec Raiffeisen, il y avait des essais de banques populaires, de sociétés de crédit mutuelles. Donc c'est par ces réseaux internationaux, enfin au moins européens, qu'il est mis au courant de cette réalité. Et donc c'est comme ça qu'il va fonder, d'ailleurs avec des gens de l'œuvre des cercles, il va fonder la Banque des travailleurs chrétiens, au service des petits patrons. Parce que, dit-il, il y a une multitude de petits patrons travaillant pour leur compte. C'est le monde du petit commerce, des arts et des métiers, monde condamné à des souffrances intolérables et livré aussi à des tentations qui l'éloignent de plus en plus des pratiques religieuses ainsi que des vertus chrétiennes. La vision est toujours très moralisante, n'est-ce pas? Le salut de ce monde est dans les sociétés coopératives, non pas de consommation, mais de crédit, d'achat et de vente en commun. Cette banque coopérative associe des sociétaires qui peuvent emprunter et des fondateurs qui s'interdisent de demander des avances, c'est-à-dire qu'il y a des gens plus fortunés qui aident la banque de leurs capitaux, mais ils perçoivent des intérêts. Notre banque, dit Ludovic de Besse, unit dans une même entreprise le travailleur, le capitaliste et le prêtre. Elle est donc une œuvre de fraternité chrétienne et de paix sociale. Pour les prêts, il n'était pas demandé de garantie financière, puisque les gens à qui on prêtait n'avaient pas les moyens de fournir des garanties financières. C'était fondé sur la confiance, des relations, de proximité entre les personnes. C'est ça qui permettait à l'institution de tenir. Il y avait des conseils de quartier formés d'ouvriers, c'est-à-dire d'artisans commerçants, hein, et présidés par un membre fondateur. Alors, en 1880, Ludovic de Besse s'en va en Italie et il va là prendre contact avec un juif, Luigi Luzzatti, pionnier du crédit populaire italien. Ludovic de Besse, qui est du sud, hein, donc il peut aller facilement en Italie, il connaît ce monde un peu, il n'a pas peur de rencontrer un juif, ils deviennent amis. Et surtout, là, il apprend... Il découvre des éléments qui lui permettent d'améliorer ses banques. Et il découvre aussi que les banques de Luzzati sont non confessionnelles. Alors lui, ça l'intéresse toujours, ça, que ce soit non confessionnel. Il dit, ça peut intéresser des gens qui ne fréquentent plus l'Église. En 1880, il part à Paris, c'est le moment des expulsions. On ne sait pas pourquoi il est parti. Il dit, c'est pas moi qui ai demandé à partir. Il semble qu'il y avait quelqu'un, le commissaire général de l'ordre à Rome, qui incitait le provincial à le nommer à Paris. Il y a des gens, il y a des frères qui disent, oh, ben c'est parce qu'il est trop banquier à Angers, il faut le retirer de ses affaires. En tout cas, il arrive chez un militant catholique, il ne loge pas chez les frères à Paris, puisque c'est la période des expulsions. Donc, il va chez Eugène Belluz, qui est le fondateur du Cercle des étudiants de Paris, ici rue Madame, un grand militant catholique. Alors du coup, à Angers, la banque ne va pas durer très longtemps, surtout qu'elle est ruinée par les prêts à long terme qu'on autorise, alors qu'elle avait un chiffre d'affaires modeste. Mais à Paris, lui, Ludovic de Besse, il espère pouvoir reprendre ce qu'il a fait à Angers, le développer, et là, il est à un endroit où il va rencontrer plein de monde. Il va fréquenter tous les cercles catholiques, et pas seulement catholiques, de l'époque. L'Union des œuvres ouvrières, les comités catholiques, la Société bibliographique, le Cercle du Luxembourg, et surtout les œuvres les unions de la paix sociale, fondées par Frédéric Leplay. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Frédéric Leplay. Il a une salle à la Cato, il a une statue au Jardin du Luxembourg, et une rue dans le 16e arrondissement, je crois, là où est mort François Mitterrand. C'est un haut fonctionnaire, né en 1806, homme politique, conseiller d'État, c'est un peu le Jacques Attali de l'empereur, sénateur et sociologue. C'est un homme qui était né d'une famille très modeste et il avait le sens des pauvres. Il va circuler à travers toute l'Europe à pied en se passionnant pour le monde ouvrier, pour étudier la condition de vie des travailleurs. Il en sort un livre en 1955 qui est un monument, Les ouvriers européens. Et puis ensuite, en 1964, la réforme sociale. Il fonde une société où se rencontrent les gens qui étudient ces questions. Il faut dire qu'au temps de Napoléon III, c'est le temps aussi de Victor Hugo, de Eugène Sue, on s'intéresse d'une manière positive au monde ouvrier. Donc c'est quelqu'un qui s'efforce de formuler en termes scientifiques la crise du lien social de son époque. C'est un sociologue, un des fondateurs de la sociologie française. Bien sûr, on a oublié qui c'était, souvent, je vais vous expliquer pourquoi, enfin il y a des raisons. Frédéric Leplay fait des enquêtes de terrain. Ça va avoir les catholiques vont se saisir de cela, jusqu'à économie et humanisme, par exemple, mais même la JOC, les enquêtes de la JOC. L'observation d'un petit nombre de faits, et il fait des analyses, parce qu'il a aussi une philosophie sociale. Pour lui, les conflits sociaux viennent des faux dogmes de 1789 et des Lumières. C'est les idées de Rousseau. Il condamne ces idées-là. Bon, c'est pas un conservateur. Souvent, les gens de la contre-révolution ont des idées qui sont aussi novatrices par certains points, et ils ont un jugement raisonnable sur la période avant la Révolution. Leplay s'intéresse aux structures familiales, puisqu'il considère la famille comme le fondement des sociétés humaines et leur principal ressort. Donc il va fonder une société savante qui n'est pas confessionnelle. Lui-même, c'est un catholique, mais pas particulièrement marqué. Il fréquente beaucoup les catholiques libéraux. Par contre, en 1871, il écrit « La paix sociale après le désastre » et il fonde les unions de la paix sociale, qui sont non confessionnelles, mais il va avoir une grande influence sur les catholiques sociaux qui vont y venir, en particulier Ludovic de Besse, qui va être animateur d'une union de la paix sociale à Paris. Il écrit beaucoup dans sa revue, La Réforme sociale. Bon, alors il y a un côté conservateur qui va être récupéré. Tous les catholiques sociaux vont se jeter sur Le Play. Ils se reconnaissent tous dans Frédéric Le Play. Et jusqu'à ce que l'Action française aussi s'y intéresse. Charles Maurras a écrit des articles importants dans La Réforme sociale, importants dans son histoire. Et La Réforme sociale va être compromis très... Les héritiers de Frédéric Le Play vont être très, très impliqués dans Vichy. Donc c'est pour ça qu'après on en a beaucoup moins parlé, n'est-ce pas? Mais là, il y a vraiment un fondateur de la sociologie qui a beaucoup aidé les catholiques et qui a permis à des catholiques de collaborer avec des gens qui n'étaient pas catholiques, de se rencontrer dans ces unions de la paix sociale. Alors Ludovic de Bèze, c'était exactement ce qu'il lui fallait. Alors à Paris, il va essayer de collaborer avec l'œuvre des cercles, parce que l'œuvre des cercles vient de fonder, en 1872 par là, une banque, la banque Montparnasse. Et en suivant ce qu'avait fait à Angers le père Ludovic. Mais... ils vont s'opposer tout de suite et le père de Ludovic va partir à nouveau parce qu'on l'accuse d'être plus banquier que moine, de s'intéresser plus à la banque qu'à la religion, justement à cause de ses projets non confessionnels. Et il va fonder, c'est ça qui l'intéressait au fond je pense, il va fonder lui-même une autre banque, rue des Lombards, hein, c'est-à-dire tout près des Halles, à l'époque c'était un quartier chaud. Et une banque qui s'appelle le Crédit Mutuel et Populaire de Paris. C'est en 1882. On est dans les années 1880, donc en 1882. Cette banque se développe d'abord, mais très vite, il y a d'autres banques qui sont nées aussi en France dans ce même mouvement, mais elles sont gênées par des problèmes d'administration fiscale. Qui ne connaît pas ces banques. Et donc, il y en a beaucoup qui ferment parce qu'elles n'arrivent pas à obtenir d'exonération. L'Union économique, le journal de Ludovic de Bèze, fait une campagne d'exemption de la patente et finalement, Ludovic de Bèze obtient que le Crédit Mutuel et Populaire de Paris soit exonéré en 1887. Mais les banques populaires sont très fragiles. Alors, du coup, Ludovic de Bèze va réfléchir comment consolider ce système. Et il va chercher des contacts dans le monde de la finance, il va chercher des interlocuteurs dans la classe politique, il y a un congrès de banque populaire qui se fait dans le Midi avec des catholiques libéraux à Marseille, son pays. Et là, il va y participer. Et du coup, là, il va avoir 11 banques qui vont se réunir. Et c'est là qu'il se lie d'amitié avec Eugène Rostand, qui était le père de Edmond Rostand. Et Ludovic de Bèze va marier Edmond et Madame Rostand, je ne sais pas comment elle s'appelle. Ils fondent le centre, ils vont présenter ensemble des propositions au gouvernement, des orientations. Et il va aussi présenter le Crédit Populaire à l'exposition universelle de 1889. Il est très content. Il va saluer, serrer la main au président Sadi Carnot. Voilà, c'est le jour de gloire pour lui. C'était pas évident de participer au centenaire de la Révolution. Il y a des intransigeants comme Maurice Maignan, qui était ici, là, le cercle d'ouvriers, celle de Montparnasse, qui disent qu'il ne faut pas y aller. C'est se compromettre avec la Révolution. En 1900, ça se reposera, ces questions. Mais là, il reçoit aussi son ami juif italien, Luigi Luzzatti. En 1890, alors, il participe à un congrès aussi à Liège, où on voit là se cristalliser l'option des Capucins et d'un groupe qu'on appelle libéral, qui s'appelle l'École d'Angers, avec Mgr Frépel, tout des personnes qui sont plutôt libéraux au point de vue
qui refuse la mainmise de l'État sur les affaires. Ça se comprend. Vous voyez, la Banque Populaire, c'est des initiatives qui partent de la créativité, de la liberté des gens. Pas de, ils sont contre les interventions de l'État. Ils sont libéraux au point de vue économique, mais c'est relatif. Ils accusent leurs ennemis, catholiques sociaux comme eux, d'être socialistes. C'est un peu excessif. Hein. Ils disent que, par exemple, Léon Harmel est un socialiste. Il est franciscain, laïque aussi. Hein. C'est un peu excessif. Mais il y a deux positions qui prennent, qu'on arrive à voir à ce moment-là, dont les contours sont bien, bien fixés. Et c'est ça qui va aussi se reporter ensuite dans les débats entre capucins et franciscains dans les congrès du tiers-ordre, où on voit que Ludovic de Besse est inspirateur des capucins, qui sont pas pour l'intervention de l'État, alors que chez les frères mineurs, il y a plutôt des gens qui sont, il y a quelques frères qui sont très en faveur du socialisme, et puis tout le monde, il y a beaucoup de gens qui interviennent à ce moment-là qui ne sont sur les bords du mouvement franciscain, c'est plutôt des ça provoque un conflit là aussi. C'est aussi la difficulté à penser le pluralisme dans un système religieux. Donc, je pense que Ludovic de Besse a joué un rôle idéologique important. En 1891, le ministre général bénit l'agence du Crédit Mutuel. Jour de gloire encore. Il était venu à Paris. Ensuite, Ludovic de Besse poursuit ses opérations de contact avec des gens qui sont pas comme des catholiques sociaux, et en particulier avec un Edmond Benoît Lévy, avocat, dignitaire du Grand Orient de France, qui avait fondé de son côté, puisque le personnel républicain fondait aussi des sociétés de crédit, pour comme il y a un crédit agricole contre les crédits ruraux de Louis Durand, pour que le crédit échappe à la mainmise des curés. Hein. Mais de son côté, Ludovic de Besse, lui, il voit l'opportunité de consolider en France la place du Crédit du Populaire. Et puis aussi, il espère que Benoît Lévy va apporter de l'argent pour sa banque qui est en difficulté. Mon cœur est large, je voulais y mettre non seulement les libéraux, mais les protestants, les juifs, les infidèles de tout l'univers, pour faire tomber leurs préjugés, pour amollir leur cœur et faire fondre leur haine sous l'ardeur de la charité catholique. Voilà, toujours un projet d'annonce de l'Évangile. Ludovic de Besse, se défait d'un certain nombre de ses affaires, de son journal, pour entrer dans les affaires d'Edmond Benoît Lévy. Et alors là, ça va provoquer un conflit très violent dans l'Église, en France, entre lui et puis un de ses amis qui l'avait aidé pour le crédit rural, qui s'appelle Louis Durand, aussi tertiaire franciscain à Lyon, et qui s'oppose, qui va finir plutôt du côté de l'intégrisme, mais ils vont s'opposer très très brutalement sur ces questions de confessionnalité, de relations avec la République. Louis Durand étant absolument contre et Ludovic de Besse absolument pour. Et ils sont, Ludovic de Besse est un homme incapable de mettre de l'eau dans son vin quand il discute. C'est un homme qui va jusqu'au bout. Et donc ils vont à Rome, ils écrivent à Rome, mais Ludovic de Besse a des appuis moins forts que Louis Durand et le Saint-Siège. Sur ces questions qu'on peut toujours discuter, qui sont toujours discutées, le Saint-Siège refuse de prendre parti. Il n'y a pas que Ludovic de Besse. J'ai découvert l'autre jour qu'il y avait un prêtre du diocèse de Paris, Jean Violet, le chanoine Violet, qui avait fondé comme ça des œuvres confessionnelles au début du XXe siècle et des œuvres en même temps qui étaient absolument neutres. Alors ça a discuté beaucoup à son sujet. Il était en dispute avec le père Lande, par exemple. Mais ça, c'était des choses qui... Ça dépend des temps, des lieux. Le Saint-Siège n'a pas pris position à ce moment-là. Il prendra position, le pape Pie X, en 1905-1910, parce que là, on resserre les rangs à ce moment-là. Il y a trop de difficultés. L'Église est vraiment en conflit en France avec la République. Et on voit d'un très mauvais œil toutes ces disputes entre œuvres confessionnelles, non confessionnelles, et donc Ludovic de Besse va perdre son procès. Enfin, il envisage de porter le procès, mais on l'en dissuade, donc il doit se taire.
Liquidation en 1894 du Crédit Mutuel. Il faut dire que sa bienfaitrice, Madame Taillère, était morte quelques années auparavant. Les Capucins sont obligés d'hypothéquer le couvent pour payer les dettes, pour éviter que petites gens qui avaient placé leur argent soient lésés. Et Ludovic de Besse s'y est pris un peu tard, maladroitement. Il était définiteur, gardien, tout. Et il disait, le couvent vit bien, hein, de toute façon. Et il comptait là-dessus, l'argent du couvent. Donc, la banque a été liquidée à l'amiable. Et alors là, il y a quelqu'un qui dit, c'est un député qui avait placé pas mal d'argent, mais comme il avait perdu les élections, il a voulu récupérer son argent. C'est comme ça que la banque a coulé. Et il dit, mais c'est un religieux dans la banque, ça va pas, ça entraîne des confusions. C'est évident. Mais ça n'empêche que Ludovic de Besse a des grandes idées, et sa banque ayant coulé, il dit dans un discours quelques semaines après, j'ai de la banque populaire une vision grandiose. La banque populaire, c'est la paix. Voilà les derniers mots de son discours. Et il se retire de l'activité sociale à proprement parler, il va au chapitre général, et il va publier à ce moment-là ce livre sur lequel il travaillait depuis 15 ans, sur Bernardin de Feltre. Des gens qui ont réfléchi. C'est un sujet sensible, parce que c'est la question de l'usure. La question de l'usure, c'est la question des juifs. C'est très, très, très sensible. On est au moment de l'affaire Dreyfus quand il publie son livre. Donc il est obligé de faire des il essaye de mesurer ses propos. Il n'y arrive pas toujours. Et un grand livre. Il a mené une enquête scientifique, historienne, très sérieuse. C'est vraiment un travail très sérieux d'historien qu'il a fait. Ouais, c'est des gens, Bernardin de Sienne, avait surmonté des difficultés de doctrine sur le prêt à intérêt pour répondre aux besoins du peuple. Ils avaient fait le pont entre la doctrine chrétienne et puis la vie des gens. Ils avaient pris soin de la société. En 1903, les religieux sont à nouveau expulsés. Ludovic de Besse se retire en Italie. Le provincial à San Remo, qui l'attend, lui dit « Vous ne vous occupez plus désormais d'affaires sociales et économiques. » Et il va là écrire un dernier livre, « Le clergé de France et Frédéric Leplay », où il invite le clergé à étudier les questions sociales. C'est l'époque où on pense que le prêtre doit, c'est Léon XIII qui dit ça, le prêtre doit sortir des sacristies, s'intéresser à la question sociale. Et lui promeut beaucoup cela avec beaucoup de vigueur. Je termine avec cela. Quelques années auparavant, il a publié deux ouvrages de mystique, « La science de la prière », « La science du pater ». Auparavant, il avait publié « Les éclaircissements sur les œuvres de Saint Jean de la Croix ». Aux éditions du Crédit Mutuel. Donc, il appartient à l'école carmélitaine plus que franciscaine. Il dit lui-même qu'il a lu 40 fois Saint-Jean de la Croix. Et le père Louis-Antoine Jarry, qui a fait une biographie de Hilaire de Barenton, qui a fait la biographie de Ludovic de Besse, dit que Claudel, en 1925, avait déclaré à Gide dans une lettre qu'il avait été... Sa prière s'était trouvée renouvelée par la lecture de la deuxième édition du livre « La science de la prière » en 1925. Et c'était une carmélite qui lui avait donné le livre. On peut dire que l'essentiel de son apport consiste à réhabiliter la vie mystique ordinaire. Après le crédit pour tous, c'est la contemplation pour tous. Cette voie était fermée depuis les controverses sur le quiétisme et les condamnations qui allaient avec au XVIIe siècle. Ludovic de Besse se refuse à réserver la mystique à une élite. Son livre est écrit, dit-il, dans la dédicace, écrit pour les plus humbles. Je pense que cette expérience de contemplation, que c'est sa propre expérience dont il a parlé un tout petit peu, je ne sais plus où, mais il en a parlé un peu. C'est cette expérience qu'il partage, le père Ludovic.
C'est ce qui lui permet d'identifier les traces du passage de Dieu dans des itinéraires et des événements de l'histoire hors de l'Église. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir dans son aventure. Quelques conclusions. Ludovic de Besse est un homme de transition, évidemment. Pour lui, le prêtre dirige et les laïcs sont des auxiliaires, et surtout pas l'inverse. Mais il a une vive, très vive conscience de vivre dans un temps où les laïcs vont avoir un rôle très très important à jouer. Dans son dernier livre, il parle de... ses horizons se sont considérablement élargis. Il dit, si l'Angleterre se convertit au catholicisme, bien alors tout le monde entier pourra devenir catholique. Il dit, il faut envoyer des laïcs pour que dans ces pays, pour montrer ce qu'est le travail, et pour des laïcs catholiques, pour travailler à la conversion de ces pays. Nouvelle utopie. Mais donc il a le sens de la place, de l'importance qu'auront les laïcs à jouer dans l'Église. Son horizon, c'est celui d'une société chrétienne, mais il prend au sérieux la distinction des domaines politiques, économiques. C'est pour ça qu'il fait des œuvres non confessionnelles, mais il ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas un prêtre dans ses œuvres non confessionnelles. Mais à la fin, il a toujours dit l'hérésie, c'est la sécularisation, c'est la séparation, mais c'est un homme qui a le sens pratique, concret. En 1904, il écrit à son ami Luzzatti, « Le Concordat était devenu, aux mains des francs-maçons, une véritable camisole de force. Évêques et prêtres étaient paralysés. Les souffrances inévitables qu'amènera l'application de la nouvelle loi auront pour résultat de réveiller les consciences et de ranimer le zèle des catholiques, des croyants. » C'est un homme qui est attentif à la valeur de l'expérience. Il adapte ses théories et ses œuvres aux besoins des gens, aux contraintes économiques et politiques. Il débat avec les autres. Il est de tous les congrès. Il publie un bulletin. Il se documente pour faire fonctionner ses banques. Il travaille sérieusement son sujet Bernardin de Feltre. C'est un homme qui est attentif à la valeur de l'expérience. Et puis, même si ses réalisations bancaires sont au service d'un projet théologico-politique, Ludovic de Besse a vu les besoins des couches populaires et pauvres. C'est ça qui l'amène à franchir quelques frontières. Il est convaincu que l'Église et lui ne sont pas les détenteurs exclusifs du bien à faire. Je lis juste quelques lignes de ce qu'il écrit. Il parle de la joie spirituelle et du mal qui consiste à, au lieu de faire régner Dieu dans les cœurs, à faire établir son propre règne sur les personnes. Le remède à un si grand mal est de se réjouir du bien fait par les autres, plus encore que du bien qu'on a opéré soi-même. Il faut nous réjouir du bien fait par les autres, plus encore que de nos propres bonnes œuvres. Ça vient de Saint François, hein, des admonitions. Les temps ont changé, la religion chrétienne n'est plus la matrice de la société, l'Église a perdu sa position dominante, mais aujourd'hui elle entend toujours être présente dans le débat public. On pense pas non plus que la déchristianisation soit due aux ennemis de la religion. Et le problème de la perte de la foi vient du changement culturel. Il y a longtemps qu'on le sait et qu'on le met. Et Ludovic de Besse pensait qu'il fallait ranimer le zèle des catholiques. Mais là aussi, on n'est plus dans les mêmes problématiques. On est dans un monde post-chrétien. On peut plus se positionner dans une logique de résistance, de confrontation. Mais Ludovic de Besse, moi, m'intéresse parce que c'est pas quelqu'un qui se contente de dénoncer le mal. C'est quelqu'un qui agit d'abord. Est-ce que nous avons, nous aussi, des propositions à faire pour inventer la société, ouvrir de nouveaux possibles, pas seulement dans le domaine économique, mais aussi dans ce domaine-là. Les Focolari ont initié l'économie de communion dans ce sens-là. Les réalisations de l'économie sociale et solidaire sont-elles une alternative crédible au capitalisme et au socialisme ? Ludovic de Besse, ça s'est effondré, mais Il reste que toujours, c'est plutôt, ça reste un rappel qui nous est donné dans ces réalisations qui sont toujours modestes, fragiles, de la finalité humaine et sociale de l'économie. Voilà ce qui nous reste aussi de Ludovic de Bess. Il nous rappelle la finalité humaine et sociale de l'économie. Merci.
Alors, quelques questions peut-être. Merci d'avoir venu pour ce portrait absolument poisonnant. On est un peu abasourdi par toutes ces activités. On se dit comment cet homme a pu tout faire, tout ça en même temps.
Ah oui, c'est incroyable.
Bon, je veux dire, parce qu'il avait une vie dans son couvent aussi. Enfin, est-ce qu'il était dans son couvent de temps en temps? Est-ce qu'il allait à l'oraison mentale le matin?
Et, dans son journal, il tient un journal à partir de 1885, il parle, il note tout, les horaires d'oraison mentale aussi.
Il est décédé, il est mort en quelle année?
1910.
Une question. Parce que en même temps, lui étant à Angers, sous Napoléon III, c'est beaucoup développé, déjà même avant, enfin de 1855-1857, le Crédit Mutuel de Bretagne, de même aussi en Alsace, et là, c'est parti des chrétiens. Ça s'est énormément développé en Bretagne, le Crédit Mutuel, à partir des paroisses d'ailleurs.
Rural.
Je me demandais s'il y a eu des liens...
Je ne pense pas.
Comme vous dites microcrédit, au départ, le crédit mutuel, c'était effectivement mutualisé au niveau d'une paroisse l'accord des moyens financiers de solidarité. Est-ce qu'effectivement, dans ses écrits, il en parle ou
non.
Fait référence?
Je n'ai jamais vu. Mais lui, c'est plutôt le crédit en milieu urbain. C'est pour ça qu'il est plus difficile aussi, parce que les relations de confiance sont plus difficiles à créer dans la ville où les gens bougent. Il a fait la promotion aussi du crédit rural, mais lui-même ne s'est pas engagé dans cette voie. Il aurait bien aimé que Louis Durand, qui est allé du côté un des fondateurs du crédit mutuel, Louis Durand, il aurait bien aimé qu'il soit avec lui, qu'il fasse ensemble crédit rural et banque populaire. Mais aussi, ça s'est séparé parce qu'il y a des besoins différents. C'est aussi les questions de législation. À partir de 1893, les choses sont devenues plus facile. Comme pour les banques populaires, elles sont devenues plus faciles après la guerre de 14, parce que l'État investit de l'argent pour reconstruire le pays.
Très concrètement, comment ça fonctionnait? Parce que pour les gens qui ne sont pas spécialistes de questions bancaires ici, qu'est-ce qui distingue finalement au départ le fonctionnement d'une banque populaire et le fonctionnement d'une banque normale?
Nous avons un spécialiste dans la salle.
Parlez plus fort, peut-être. Ça serait très bien.
Micro, donnez le micro.
Oui. Le BCE qui est en retraite centrale, après la fusion des banques populaires et des caisses d'épargne. Ce qu'on dit dans les banques populaires de ces pionniers, c'est qu'à l'époque, les banques installées ne payaient pas du tout les entreversants. Ils se méfiaient d'eux, ils ne traitaient qu'aux grandes entreprises. Et les petits patrons ne pouvaient pas investir quand ils avaient besoin de la Chine, il n'y avait personne pour aucune banque ne leur prêtait. D'où l'idée de dire, puisqu'on ne nous prête pas, nous connaissons, nous, dans notre quartier, dans notre artisan, nous connaissons, nous faisons confiance, donc nous pouvons nous prêter parce qu'on sait. On sait à quoi servira l'argent, on peut évaluer l'intérêt du crédit, etc. Donc il y avait cette idée qu'il fallait se prendre en charge parce qu'on était marginalisés et méprisés par les banques installées. Et d'ailleurs, dans les banques mutuelles et coopératives, il est toujours resté un peu cette idée que... ça s'est un petit peu effacé avec la mondialisation et la marchéisation de la finance, mais il y a toujours eu une espèce d'antagonisme, un peu de mépris des grandes banques installées par rapport aux banques coopératives. et par ailleurs, le sentiment que on traite tout ça dans la même cour. Ça s'est complètement effacé dans les années récentes. Le coup des banques coopératives, on peut pas du drap. Elles ont fait comme les autres, elles ont fait des erreurs parfois pires. Mais donc, pour répondre à votre question, en fait, il n'y avait pas d'alternative. Alors, Frère a parlé de l'économie sociale et solidaire. L'intéressant, c'est qu'encore maintenant, le groupe des PCE est le premier financeur de l'économie sociale et solidaire. Alors, c'est plus le fait des caisses d'épargne, à travers les offices de HLM, et l'engagement social des caisses d'épargne, avec les fondateurs, les philanthropes, mais qui étaient centrés sur l'épargne.
Les crédits coopératifs.
Voilà, les coopératifs, ça c'est plus tard, c'est beaucoup plus populaire maintenant, hein, qui était aussi un acteur de l'économie sociale et solidaire. Et puisque c'est aujourd'hui effectivement la semaine de la finance solidaire, le groupe BPCE reste aussi leader dans les 40%, mais gère à peu près 40% des encours de la finance solidaire. Donc il y a quand même des traces qui sont restées de ces origines lointaines.
Est-ce qu'on se souvient de Ludovic de Besse dans
votre oui, dans son... on se souvient comme fondateur. Et je pense qu'on en parlera plus l'année prochaine, puisque l'année prochaine, c'est les 100 ans de la loi de 1917, qui a en fait configuré vraiment, qui a donné un statut aux banques populaires. Donc ce sera, l'anniversaire sera célébré. Je pense que cette occasion-là, il y aura des livres qui paraîtront. Et chaque fois qu'on fait un document ou un livre d'histoire, ou sur les banques populaires, on cite Ludovic de Besse. Alors, il faut savoir que, effectivement, les premières banques ont fait faillite. Voilà, c'était très fragile, évidemment. Hein. Toutes les banques qu'on connaît à cette époque ont fait faillite. Le mouvement des banques populaires a été repris massivement par les francs-maçons, en fait, comme un peu comme les Crédit Agricole, mais plus tard. Il est toujours resté une partie plus de militance plus chrétienne, mais les francs-maçons revendiquent l'essor des banques populaires à travers la création d'une banque là, qui a prospéré, qui était à Menton, qui a été fondée par Rédry. On n'est pas sûr que Rédry était franc-maçon, mais enfin, en tout cas.
Non. Il était. Peut-être protestant. C'était un. Le premier congrès des banques populaires. Il était. Il s'est lié d'amitié aussi avec. Avec Ludovic de Besse.
Ludovic de Besse, effectivement, était dans tous les congrès. Il a la réputation qu'il était très ouvert. C'est pour ça que son image n'a pas du tout été effacée par le personnage ultérieur.
Et Benoît Lévy, l'année où il se met à faire des transactions avec politique, avec Ludovic de Besse, Benoît Lévy, cette année-là, entre aux unions de la paix sociale.
Oui, il y a une tentative de cohabitation.
Oui, c'est un cercle où il y avait beaucoup de ces... Des fondateurs de banques. Hein. Eugène Rostand était un animateur aussi des unions de la paix sociale. Et donc Benoît Lévy est entré aussi à ce moment-là. Oui. Le cercle où se retrouvaient des gens de différentes traditions. C'est intéressant.
C'était l'un des lieux de conflit avec Durand, justement. Oui. Il y a eu toute une correspondance entre Durand et Ludovic de Besse.
Très violente.
Il accuse de faire le jeu des Juifs.
Oui, oui, oui. Oui, oui.
Les francs-maçons, il y a des évêques qui sont derrière pour approuver Durand contre Ludovic de Besse.
Oui, oui,
oui. Je ferais quand même une petite remarque là, avant cette période, c'est que Napoléon III, à partir des années 50 et quelques, Napoléon III après son était tout à fait influencé par ce qu'on appelle le saint-simonisme. Et donc la grande période de Napoléon III, cette grande période a été. L'évolution bancaire a été très marquée par l'influence du saint-simonisme. Je rappelle que c'est quelque chose qui a développé l'industrie dans le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'explication. Je prends le cas de la création du Crédit Lyonnais, la Générale, c'était un an après, c'est-à-dire en 63-64, d'autres banques en France. On a vu la relativisation des banques protestantes, juives, et ce qu'on appelle la haute banque, et la création d'un concept révolutionnaire, c'est-à-dire la banque pour tous. C'est-à-dire que je rappelle que le Lyonnais, la philosophie du Lyonnais, pour prendre un exemple simple, à l'époque, c'était d'ouvrir un compte à n'importe qui se présentait, la gratuité complète du compte, la gratuité complète du chèque donné, la gratuité complète du fait d'avoir un portefeuille public, etc. Et donc c'était totalement révolutionnaire, avec une expansion mondiale. Et je crois que cette conception-là n'est pas en contradiction avec le fait d'avoir tout type de clientèle, et en particulier pour les artisans, ça c'est des choses techniques. Donc je crois qu'il y a philosophiquement, alors ce combat s'est perpétué, en particulier l'internationalisation des banques en 82, la mainmise complète du système coopératif et mutualiste sur l'appareil bancaire classique, sont des luttes philosophiques. Alors, on parlait de la franc-maçonnerie. Alors, Saint-Simonie, ce n'est pas tout à fait la franc-maçonnerie. C'est un peu bizarroïde, parce que, pour qui a regardé, Saint-Simon était le neveu du duc de Saint-Simon. Par exemple, Ferdinand de Lesseps, qui a créé le canal de Suez et qui a échoué sur le canal de Panama, était complètement saint-simonien. Alors, on peut se poser la question par rapport à l'intérêt du petit porteur, de la personne qui est fragile économiquement. Ça se discute actuellement, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de la gratuité des services. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir, ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui est fragile économiquement devra payer des services bancaires, beaucoup plus. Il y a beaucoup de choses qui disparaissent actuellement et qui, au fond, ont été créées par des gens qui ont beaucoup favorisé les gens fragiles économiquement. Je pense que la discussion... Alors, l'économie solidaire, on peut toujours la pratiquer dans beaucoup de systèmes, pas nécessairement... c'est vrai que c'est une tradition des banques populaires, des crédits mutuels, etc., mais j'attire votre attention sur le fait que, quand on regarde sur le fond l'intérêt de la clientèle et l'intérêt des gens moins favorisés, il y aurait discussion. Et ça se reflète dans les combats actuels, c'est-à-dire, moi j'ai participé à ça dans les années, début des années 80, etc. C'est un combat terrible parce que, et ça se reflète au niveau mondial. Quel est l'intérêt réel sur ce métier qui consiste à, par exemple, le taux zéro, actuellement qui est pratiqué, est un mythe, une drogue dure, qui à terme va toucher, vous et moi, la théorie, c'est qu'actuellement, vous n'êtes même pas sûr de recouvrer le capital, que vous spoliez. Donc ça, ce sont des choses intéressantes et fondamentales sur le fond. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Je ne suis pas sûr que tout le monde suive parfaitement les dédales de ces questions qui me semblent très importantes, mais je ne suis pas sûr qu'on fasse tous
L'époque qui a dominé l'époque de Napoléon III dans son ensemble est une époque de révolution économique qui a touché beaucoup la banque et l'industrie. Et les gens qui ont fondé ça ont fondamentalement pensé à l'intérêt du nombre, ces révolutionnaires que n'importe qui en France, puisse aller dans un établissement protégé à cette époque, à qui on offre gratuitement toutes sortes de services, parce que ça c'est fondamental. C'est la haute banque, c'est-à-dire cet effet pour les riches, les importants, etc.
Je sens une réserve s'exprime.
Je me suis fait un combat. J'ai l'impression que les banques installées, générales, toutes les idées, etc., étaient Et pas du tout le travail de ce qu'on appelle les PME maintenant. qui était vraiment en dehors des circuits de l'époque classique. Les générales, les grandes banques de l'époque, générales, Crédit Lyonnais, c'était un peu comme des banques assez prononcées, des banques mondialisées, hein, et je ne sais pas si c'est privilégié particulièrement l'intérêt des petits épargnants. Je sais, il est prouvé par exemple que la Société Générale était la première banque qui a fait les plus forts, qui a fait faire les plus forts investissements à ses clients dans les fonds russes. Les dirigeants de la Société Générale n'avaient pas un seul titre russe dans leur propre portefeuille. Et à l'époque, les pays d'Amérique du Sud qui faisaient des émissions autour de ça, c'était complètement frais. Plus les émissions étaient risquées, plus les commissions étaient importantes. Et ça, les banques le savaient parfaitement. Entre Goldman Sachs et la Société Générale des années 1910, c'est pas un peu la même optique. Donc vraiment, je ne pense pas que un intérêt fondamental pour les grandes banques à se caler d'époque vis-à-vis de cette clientèle considérée comme une idiot. Ils ne voulaient pas s'embêter à travailler avec des gens qui préféraient faire un prêt de 300 millions de francs or à Schneider faire un prêt de 1000 euros ou de 1000 francs or qui voulaient les acheter
Chine.
Vous voyez par exemple
le crédit au parti. Là, on parle de le fait de permettre à la population d'avoir des crédits, c'est révolutionnaire, ça peut être fait par les banques classiques.
Cet échange va pouvoir continuer. Voilà. Y a-t-il
juste un mot pour dire que pour ceux qui s'intéressent à Dominique de Besse, frère Dominique va publier dans quelques, ça doit bientôt paraître, un article dans le bulletin des amis de Frédéric Leplay. Comment ça s'appelle exactement?
La science sociale. Voilà. Une revue des héritiers intellectuels de Frédéric Leplay.
En tout cas, manifestement, on sent qu'on a besoin davantage de travailler ces questions. C'est absolument passionnant tout ce que... Oui,
Frédéric. Il y a une question.
Allez-y.
Tu as fait allusion tout à l'heure, assez rapidement, à Léon Armel, en disant que donc Frédéric Leplay c'est dans une autre optique. Mais il n'a pas du tout parlé de l'impact de Rerum Novarum sur l'éruption des chrétiens de l'époque, de la fin du XIXe siècle. Or, Léon Armel, précisément, c'était le correspondant presque officiel de Rerum Novarum en France. Il était lié à la personnalité même de Léon XIII. Et alors, il y a donc eu tout un mouvement dont Thiers-Ordre s'est senti impliqué là-dedans. Et alors, Ludovic de Besse, il n'avait plus une autre voie. Mais alors, il y a eu des conflits pour ça. Il y a eu des conflits, certainement.
C'est le congrès de Liège en 1890 le groupe Léon Armel et les autres estiment qu'ils sont du côté de l'encyclique, tandis que l'école d'Angers a perdu le combat. En fait, l'encyclique ménage tout le monde. Mais ils sont considérés comme ayant perdu leur combat, les libéraux de Angers, l'école libérale d'Angers.
Ces débats au sein du franciscanisme sont passionnants. Ça mériterait, moi je suis en train de penser, article.
Dommage qu'un homme comme Jean-Marie Pernaud n'est pas été là ce soir,
mais lui
a fait l'histoire du christianisme social du Tiers-Ordre. À la suite de Léon Armel et de Raymond Le Baron.
Et en partant d'une fraternité bien précise dans le nord de la France.
Bien sûr,
c'est voilà, c'est ça. Oui.
S'il vous plaît, au début, j'ai pas retenu. Vous avez parlé de quelqu'un qui est allé en Turquie et qui considérait que la langue turque était à la base de toutes les autres langues. C'est qui ?
Hilaire de Barenton.
Qui ?
Hilaire de Barenton, c'est un capucin, 1864-1946. Oui.
Il faisait de la linguistique pourquoi ?
Il en a fait, oui. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. C'était un autodidacte.
Il a essayé de s'intéresser à la langue crète.
Il a écrit, il a publié.
Oui, il y a plusieurs. Il y a beaucoup de documents, oui. C'est un homme original.
Il y a un de Barenton, je pense, Miguel.
C'est très intéressant, il faudrait faire une soirée. On pourrait faire une soirée sur Hilaire de Barenton. Il y a quoi ? C'est un homme extraordinaire.
Bien, bah merci Dominique de nous avoir ouvert ces horizons. On sent bien qu'il y a énormément encore à travailler, que c'est des périodes absolument passionnantes, où les capucins, les franciscains ont été extrêmement présents dans... Voilà, les tertiaires, tout ce monde de la monde franciscain extrêmement présent dans la vie sociale.
Ah oui, c'était un réseau. Les tertiaires, le tiers ordre a été vraiment un réseau. Se rencontraient aussi beaucoup, beaucoup de gens différents.
Ça a été étouffé en partie par la condamnation du Sillon. Campinis a condamné le Sillon, comme tout le mouvement social franciscain était lié un peu au Sillon. Du coup, tout est dégringolé.